Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier numéro des vacances du Bureau des Mystères. On avait dit qu'on faisait trois émissions, ça y est, c'est la dernière. En fait, maintenant c'est même plus des vacances, hein. On s'approche de la rentrée.
C'est la rentrée, c'est complètement la rentrée. Là.
C'est complètement là. En fait, au moment où on enregistre, la rentrée arrive. Mais c'est oui, au moment où c'est diffusé, la rentrée est déjà bien installée, je pense.
Ouais.
Donc non, ouais, bah c'est notre dernier numéro des vacances, un petit dernier esprit de vacances avant de réellement se replonger totalement. Je crois qu'on a besoin de rester encore un petit peu en vacances malgré le fait que la rentrée est arrivée. On a
peut-être un petit peu besoin.
Du coup, on va faire comme sur les deux précédents numéros, c'est-à-dire qu'on va commencer par se raconter deux petits mystères, puis deux histoires effrayantes, et on terminera par une petite session de recommandations. Et d'ailleurs, Charles, tu vas commencer avec un premier mystère.
Je sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, Mathias, en 2015, il y a une intox. Plutôt un canular plutôt qu'une intox, qui avait fait surface, c'était sur le site Daily News Report, qui affirmait qu'un bateau disparu en 1925 était réapparu à Cuba 90 ans plus tard. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Ça me dit vaguement quelque chose, mais après ça pourrait me dire quelque chose parce que ça ressemble à beaucoup d'histoires de bateaux hantés et que j'ai l'impression que les patterns reviennent souvent, donc peut-être que je pense à un autre bateau, mais ça me dit quelque chose cette histoire de bateau qui revient mystérieusement.
Bah, alors déjà... Préciser, il s'agissait d'une fake news, hein, et ça concernait le SS Cotopaxi, un navire de fret construit en 1918, parti de Charleston, donc aux États-Unis, en direction de la Havane, le 29 novembre 1925, et qui a tragiquement été porté disparu, avec ses 32 membres d'équipage, le 31 décembre de la même année, donc en 1925, non loin du triangle des Bermudes. Alors... Ce premier canular, donc comme je disais, qui a été publié par le Daily News Report, qui est connu pour produire des articles de ce genre, donc qui visait à faire croire que le Cotopaxi a refait surface, donc ça a été publié en 2015, mais le problème, comme souvent, c'est que l'information a été reprise telle quelle, sans contextualisation, par tout un tas d'autres sites. Évidemment, comme vous entendez, le navire n'est pas réapparu magiquement en flottant alors qu'il aurait passé un siècle dans l'eau, mais le site FranBuzz, alors que je ne connaissais pas avant de faire des recherches à propos de ce bateau, on a rajouté une couche.
Oui. Je crois que c'est un site de clickbait, FranBuzz.
Ah, c'est complètement, ça m'étonne pas du tout, c'est complètement
c'est
un site
le genre de
clickbait,
site, ouais. Tu sais, où quand tu as des, quand tu vas genre sur Yahoo Actualité, par exemple, tu as des, tu as des liens vers des sites, genre classiques, et au milieu, t'as un truc où à chaque fois, c'est un titre réputacié du genre ces stars qui ont épousé des moches, tu vois.
D'accord.
Et
bah,
typiquement, ça, c'est FranBuzz. C'est ce
D'accord.
genre de truc. Donc, ouais, ils sont assez présents sur les grands sur les portails d'information. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas au même endroit que les articles classiques. Ils sont un endroit où j'ai l'impression que c'est publicitaire. Genre, c'est payé pour
être
sponsorisé.
Ah, c'est peut-être sponsorisé, d'accord.
C'est des générateurs de trafic, en fait. Donc, oui, c'est des sites qui ne fonctionnent que, bah, comme son nom l'indique, que sur du buzz, en fait.
D'accord. Mais écoute, ce site, FranBuzz, on a rajouté une couche en affirmant que le vieux navire avait été intercepté par la garde côtière cubaine, comme si près d'un siècle plus tard, au final, il était finalement arrivé à bon port. Alors évidemment, ça a allumé une étincelle qui a mis le feu aux poudres, et même chose pour Topi Buzz et Moman Buzz, hein, qui profitent du succès de l'intox pour publier eux aussi des articles. Au final, une dizaine de papiers vont circuler sur les réseaux sociaux pendant des mois, jusqu'au milieu de l'année 2017. Le site Le Monde, qui a dû publier, si je dis pas de bêtises, en 2018, un article pour expliquer que tout ça était faux, explique même, donc dans son papier, en avoir compté une trentaine de sites comme ça qui avaient repris cet article qui était en fait un canular, et partagé eux-mêmes ces articles plusieurs centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Il a fallu attendre 2017 pour que les autorités cubaines démentent dans une dépêche publiée par l'Associated Press. L'information a ensuite circulé sur des sites davantage connus pour leur complotisme, puisqu'elle a été reprise notamment par le site Nouvel Ordre Mondial. En réalité, la photo de bateau rouillé qui accompagnait le texte des sites de clickbait n'était pas celle du bon bateau, c'était une photo du film de Spielberg. Enfin, la plupart, hein, peut-être pas tous, j'ai pas vérifié sur tous les sites, mais certains de ces sites ont publié une photo qui est en fait celle de Rencontre du Troisième Type, film dans lequel on retrouve en effet le SS Cotopaxi en plein désert de Gobi. Le prétendu expert qui accompagnait aussi par une photo, par un visage, et qui devait donner l'assurance que l'article était valide. Et ben en fait, cet expert n'existe pas, il s'agissait d'une photo volée d'un Anglais qui n'avait rien à voir avec la choucroute, mais... Alors, ce qui est de plus fou, c'est que le bateau a réellement été retrouvé en 2005, mais formellement identifié en 2020, comme le rapporte un article de 20 minutes paru en février dernier, parce que oui, Mathias, le bateau a finalement été identifié, c'est-à-dire qu'il a été... L'épave a été retrouvée en 2005, sans savoir que c'était l'épave du SS Cotopaxi. Des articles, notamment de fake news, des canulars, ont été publiés à partir de 2015, donc 10 ans plus tard, mais sans savoir que le bateau avait été retrouvé, indiquant qu'il aurait été aperçu à bon port. Ouais. Et finalement, le vrai navire a été identifié en 2020, donc comme le rapporte, comme je disais, un article de 20 minutes paru en février dernier, c'est le biologiste Michael Barnett qui l'a reconnu en premier quand il a plongé au niveau du site du naufrage, donc il y a près de 15 ans déjà. Depuis, d'autres scientifiques se sont penchés sur l'épave et l'identification du navire donc, n'a pas été aisée du tout puisque son nom ne figurait nulle part. Pas une cloche, pas un bout de tôle, rien ne laissait entrevoir son nom. En fait, c'est grâce au plan détaillé du bateau et à de nombreuses mesures que Michael Barnett, qui était après accompagné de Chuck Maid, qui est directeur d'un programme de recherche maritime archéologique, parviennent à faire le lien. Ils vont mesurer l'épave en longueur, vont s'introduire dedans, et mesurer notamment les chaudières, ils vont se procurer les documents d'assurance et les archives du tribunal. Ils sont également servis de documents écrits qui décrivaient toute la machinerie du navire. Enfin, les deux chercheurs, qui vont donc chercher dans les archives, ont retrouvé un message radio qui a été transmis par le navire vers la côte, en direction de la côte, juste avant de disparaître, et qui était un message d'alerte. Donc finalement, ils ont croisé toutes les données qu'ils avaient à disposition, que ce soit des données écrites, des données audio, les archives du tribunal, ou d'autres types de papiers même, pour croiser toutes ces informations et identifier formellement le navire. Mais du coup, une question reste quand même en suspens, il y a quand même un mystère encore derrière ça. Qu'est-ce qui a bien pu couler le navire ? Vu que celui-ci a sombré dans une zone plutôt célèbre, même mythique, le famoso triangle des Bermudes, et que c'est sans doute aussi pour cela que les complotistes se sont emparés de l'histoire, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour le SS Cotopaxi ? Donc vous le savez, le triangle des Bermudes, on a jamais trop parlé dans le bureau des mystères parce que le sujet est vraiment énorme là. C'est très vaste, ouais. Mais pour les personnes qui seraient vraiment pas du tout familières, s'il y a beaucoup de théories du complot qui veulent qu'il y ait des phénomènes surnaturels, des extraterrestres, de l'Atlantide ou simplement même des phénomènes de microclimat qui soient à l'origine du naufrage de nombreux navires et de nombreux avions aussi. Donc dans cette zone du triangle des Bermudes qui se situe au sud-est des États-Unis. Dans le cas du SS Cotopaxi, la réponse en fait elle est assez simple. Déjà, le navire aurait, selon Michael Barnett, quitté la Floride en pleine tempête tropicale, ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Ensuite, l'épave a été donc retrouvée près de Saint-Augustine, dans un endroit qui est réputé pour avoir des conditions climatiques assez compliquées et surtout des eaux très peu profondes. Ensuite, en étudiant l'état du navire, les scientifiques se sont rendus compte que la plupart des écoutilles étaient endommagées, et qu'apparemment elles étaient endommagées pas seulement parce que le navire avait passé du temps dans l'eau, mais elles étaient endommagées déjà au départ du bateau en 1925. Apparemment, l'équipage n'aurait pas été en mesure du coup d'évacuer l'eau qui s'abattait sur le navire, alors que une tempête les frappait de plein fouet et que potentiellement des grosses vagues s'abattaient sur le bateau. Donc on peut déjà dire que le navire souffrait d'un sérieux manque d'entretien. Et à cela s'ajoute, du coup, comme je disais, des conditions climatiques et la faible profondeur des eaux à cet endroit précis. Et enfin, pour finir d'enfoncer un dernier clou et sceller la légende dans son cercueil une bonne fois pour toutes, le navire n'a en fait même pas coulé dans le triangle des Bermudes, mais non loin, à quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres à l'ouest. En fait, il a été retrouvé finalement qu'à une cinquantaine de kilomètres de la côte est des États-Unis.
Ce qui est quand même abusé, parce que le triangle des Bermudes, de base, c'est une zone énorme. Donc,
Oui, c'est une zone qui est très grande déjà.
Donc, plus, il était même pas dedans.
Il était à l'ouest, parce que comme je disais, le triangle des Bermudes se situe au sud-est des États-Unis. Le bateau a été retrouvé en fait entre le triangle des Bermudes et la côte américaine. Donc même si sa route l'aurait effectivement conduit le bateau dans le triangle des Bermudes, s'il avait pu la continuer, en fait il a coulé bien avant à cause d'un manque d'entretien et d'un départ en pleine tempête tropicale qui n'était sans doute pas une bonne idée.
En pleine tropicale.
Trempette, c'est ce que j'ai dit.
Ouais. Une trempette tropicale.
Oui, attaque trempette, exactement. Moralité de cette courte histoire, du coup, partir en bateau en pleine tempête, et non pas en pleine trempette, quand les eaux sont peu profondes, c'est pas une bonne idée, et deuxième morale de cette histoire, les sites spécialisés dans les canulars devraient peut-être commencer à prendre des responsabilités pour ce qu'ils écrivent.
Ça, malheureusement, et puis en fait, c'est le problème, c'est que dès qu'un site de canular publie une information, tu peux être sûr qu'il y a 10 copies de ce site-là qui vont le reprendre, et ça fait un effet de masse, en fait.
En fait, j'imagine que c'est si l'article fonctionne, qu'il est finalement repris par des sites peu scrupuleux, et puis même déjà à la base, souvent c'est, en l'occurrence, le site de Canular en question, donc son nom c'était le Daily News Report, a pour habitude de se moquer des complotistes, en publiant des fake news, ce qui est quand même relativement paradoxal en soi. Ils se foutent un peu de leur gueule en disant « Ah, regardez, vous reprenez nos articles, vous êtes crédules, finalement. » Sauf que eux-mêmes, finalement, publient des intox et des canulars qui sont, oui, pour une certaine partie de la population, évidemment faciles à identifier comme étant un canular, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens qui, peut-être naïvement, partagent certaines de leurs informations. Donc ouais, c'est une ligne édito un petit peu particulière que de publier des intox comme ça pour se foutre finalement des complotistes derrière.
Après, heureusement, et pour défendre un peu les journalistes, j'ai l'impression que la plupart du temps, quand tu as une vraie intox comme ça, elle reste souvent cantonnée à ce milieu-là. C'est-à-dire les milieux qui créent la fake news et ensuite des trucs qui sont même pas des vrais médias en fait.
C'est
des, c'est des gens qui, enfin, c'est des fermes à contenu. Enfin, c'est y a pas de journaliste derrière, ce que je veux dire, tu vois. Donc c'est des gens qui vont juste reprendre la fake news sans se poser la question de est-ce qu'elle est vraie ou pas. Et généralement, ces informations-là ont tendance à rester dans le cercle des sites de buzz et à pas aller dans la presse mainstream, heureusement. Et malheureusement, il y a des cas où ça arrive. Et c'est souvent dans ces cas-là que nous, dans le Bureau des Mystères, on est tombé sur des trucs où tu te dis « Non, mais l'histoire est trop folle pour être vraie, en fait. » Et quand tu commences à creuser, tu te rends compte que oui, il suffit qu'il y ait un journaliste dans un média mainstream qui fasse l'erreur de reprendre l'information sans la vérifier. Et immédiatement, en fait, il va la valider pour d'autres médias mainstream qui vont dire « Mais attendez, je dis un exemple à la con, mais attendez, si le Figaro a repris cette information, ça doit vouloir dire que... elle est plutôt fiable. C'est, on peut partir du principe que le mec bosse dans un gros journal ou la meuf bosse dans un gros journal, donc il a dû faire son travail et vérifier que c'était pas des conneries. Et ben pas toujours. Et justement, c'est ça le risque. C'est quand t'as un média, je trouve que quand tu travailles dans un média mainstream, t'as une encore plus grande responsabilité par rapport à ça.
Ouais.
Parce que tu sais particulièrement sur Internet que tu vas influencer d'autres médias, eux aussi mainstream, et au bout d'un moment, s'il y a trop de médias mainstream qui reprennent une information qui est fausse, et ben dans les yeux du public, elle va être vraie.
Elle va être davantage légitime, ouais.
Et ça participe au manque de confiance, à la crise de confiance qu'a le public envers les médias de plus en plus. C'est que, ben en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ces informations-là étaient fausses et que les personnes ont mal fait leur travail. Et du coup, voilà, ça accentue cette crise de confiance qui est dommageable. Mais elle existe depuis très longtemps. Je me souviens que dès le début de mes études, on parlait de la crise de confiance envers la presse. Hein. C'est pas nouveau. Mais enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail. Je pense une majorité qui font bien leur travail.
Oui, la majorité, bien sûr. Ouais.
Et malheureusement, des fois, il y en a qui, par manque de temps, par flemme ou juste par manque de déontologie, voilà, foire. Et du coup, on se retrouve avec de la désinformation un peu plus généralisée, voilà, qui sort de ces sites à buzz.
Surtout qu'en France, là, en français, pour le cas du SS Cotopaxi, la totalité des sites d'info que j'ai retrouvés après démontaient l'intox. Hein,
oui, heureusement, parce que là, pour le coup, elle était très grosse quand même.
Oui, ouais. Je crois que t'avais une histoire, toi aussi,
qui parlait
d'un bateau.
Qui parlait d'un bateau aussi. En fait, j'ai voulu faire dans le dernier numéro des vacances du Bureau des Mystères, faire un sujet qu'on nous demandait depuis un moment. Parce que justement, j'ai regardé un petit peu la liste des sujets qu'on nous demandait. Il y en a un que j'ai souvent repoussé. Et je me suis dit, un jour, je m'y intéresserai vraiment et j'irai voir de quoi il en retourne. Et ce sujet, je pense, ça va faire plaisir à pas mal d'auditeurs, parce qu'on nous l'a vraiment beaucoup demandé. C'est le SS Ouran-Médan. Ça doit bien faire 2 ans qu'on en parle. Mais le moment est venu. Bienvenue à bord du SS Ouran-Médan. C'est sans doute une des histoires de bateaux fantômes les plus populaires sur le net. Elle concerne un bateau à vapeur, un steamer, d'où le SS, en fait, de Ouran-Médan, qui veut dire steamership en anglais. Donc ce SS Ouran-Médan aurait été le théâtre d'une tragédie dans les eaux indonésiennes à la fin des années 40. Déjà, on va décomposer le nom du bateau, pour commencer. Médan, c'est une ville qui est située au nord de l'île de Sumatra, et Ouran, ça veut dire homme en malais. Le malais est une des langues parlées à Sumatra. Donc le Ouran-Médan, ça veut dire littéralement l'homme de Médan. On sent déjà dans ce nom de bateau un certain exotisme, un exotisme qui serait presque parfait pour un navire disparu. Enfin, si on avait voulu écrire une fiction sur un bateau hanté à l'autre bout du monde, on n'aurait pas pu trouver un meilleur titre, très honnêtement. Il existe plusieurs versions de cette histoire, mais elle se serait passée en juin 1947 ou en février 1948, suivant les textes que j'ai pu consulter. Et à cette époque, 2 navires américains auraient capté des messages de détresse venant d'un navire marchand néerlandais, le Ouran-Médan. Et voici ce qui aurait été capté en morse. SOS du Huron-Médan. Nous flottons. Tous les officiers, dont le capitaine, sont morts, dans la salle des cartes et sur le pont. Tout l'équipage est probablement mort. Il y a d'autres mots, plus difficiles à comprendre, qui auraient été notés, et ensuite le message se termine brutalement sur un dramatique « Je meurs ». Et puis plus rien. On dit qu'un des deux bateaux américains, le Silver Star, se serait ensuite approché du bateau. Des membres de l'équipage seraient montés à bord du Huron-Médan, donc en apparence intacte, et ils auraient fait une découverte plutôt troublante. La description que je vais lire, elle vient, comme le reste de l'histoire d'ailleurs, notamment le message en morse, hein, d'une lettre qui a été envoyée à la CIA. Donc ouvrez les guillemets, voici ce qu'il y a dans la lettre. Leurs visages froids étaient tournés vers le soleil, leurs bouches ouvertes et leurs yeux grands ouverts. Tout le monde était mort. Même le chien du navire, un petit terrier, était là, sans vie, les dents découvertes de colère ou d'agonie. Mais étonnamment, il n'y avait pas de plaies, ni de blessures sur les corps. Toutes les victimes auraient, selon ce qui est dit dans cette lettre, une expression d'horreur sur le visage. L'opérateur radio qui avait lancé l'alerte aurait été retrouvé mort lui aussi, dans son fauteuil, la main encore sur la console de Morse. Soudain, à ce moment-là, alors que le Silver Star s'apprêtait à remorquer le navire vers le port le plus proche, un feu se serait déclaré sur le Huron-Médan. En quelques instants, les flammes auraient envahi le bateau, forçant l'équipage à prendre la fuite et à assister impuissant au naufrage du Huron-Médan, qui aurait emporté au fond de l'océan tous ses secrets. Et selon d'autres versions, il aurait carrément explosé avant de couler. Cette histoire incroyable, elle vient, donc comme je le dis, d'un courrier adressé à la CIA en 1959. Ce courrier est en libre accès sur internet, sur le site de la CIA, et chez les amateurs d'histoires étranges peu consciencieux, ce document est présenté comme un mémo de la CIA, qui a été adressé à l'assistant du directeur de la CIA. On s'en sert souvent comme preuve dans les articles sur le paranormal, qui serait censé faire autorité pour prouver que l'histoire est vraie. En fait, ce document, Charles, il est pas si différent d'une lettre que toi ou moi on aurait pu écrire. C'est juste un courrier, rien de plus. Ouais, c'est pas...
Que la CIA a archivé, j'imagine.
Exactement, ce n'est même pas un document interne. Et ça n'implique même pas une personne qui travaille à la CIA. En fait, sur le document, la lettre est bien adressée à l'assistant du directeur de la CIA, mais c'est un assistant, en fait, parmi beaucoup d'autres, qui est chargé de faire le tri dans le courrier, tout simplement, à la CIA. La lettre a été écrite par un certain C.H. Mark Jr., et elle n'a visiblement pas eu de réponse. Et franchement, il n'y a pas de raison qu'elle en ait eu particulièrement.
Oui.
Alors, cette histoire, d'où elle vient? Parce que C.H. Mark Jr. ne l'a pas inventée dans sa tête en envoyant sa lettre à la CIA, il a sans doute lu cette histoire dans un vieux journal ou dans un magazine, parce qu'en fait, elle circulait déjà depuis plus de 10 ans au moment où il a envoyé sa lettre à la CIA. Le 10 octobre 1948, dans The Albany Times, on trouve une première trace en anglais de cette histoire. Le journaliste, dans cet article, dit qu'il reprend une information du Elsevier's Weekly, qui est une autre publication, mais en fait, la source originale, ça semblerait être un journal néerlando-indonésien. Tu vois, on retrouve les Pays-Bas et l'Indonésie. Je vais pas essayer de dire le nom en entier. Enfin, je vais le dire une fois. Et je suis désolé pour l'accent. C'est « Des locomotives, Samarang Anders en Advertendi Blad ». Alors, je pense que j'ai pris un accent affreux. Oh,
De mon point de vue, ça avait l'air pas mal. T'as l'air de gérer.
Écoutez, désolé hein, pour les Néerlandais. Je pense que j'ai complètement écorché totalement le truc. Mais bon, vous trouvez facilement, vous tapez des locomotives. Donc, T-I-E-F à la fin. Et, comme une locomotive, mais T-I-E-F à la fin. Et vous le trouverez facilement, ce journal. En fait, c'était une série de 3 articles qui ont été publiés donc, le 3 février, le 28 février et le 13 mars 1948. Et dans ces 3 articles, on trouve toutes les bases de l'histoire. Il n'y a pas le nom du bateau qui a sans doute été inventé par les auteurs anglophones, mais tous ces articles évoquent un bateau qui aurait été rencontré au sud-est des îles Marshall, où il y avait un seul survivant sur ce bateau. Ce survivant, c'était un missionnaire italien. Enfin non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt, il y aurait un survivant, je préfère mettre un conditionnel là-dessus, et c'est un missionnaire italien qui aurait recueilli le témoignage de ce survivant juste avant qu'il meure. Donc on est déjà sur un témoignage de seconde main.
Un chaînon déjà supplémentaire.
Voilà, c'est pas directement la personne qui a parlé. C'est un missionnaire italien qui dit avoir vu un survivant sur un bateau qui lui a raconté son histoire avant de mourir en faisant « Rosebud !» Donc voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est le monsieur... Et donc ce missionnaire italien, c'est lui qui aura ensuite raconté l'histoire à un autre italien qui s'appelle Silvio Cerli. Et Silvio Cerli, c'est la source de ce journal néerlandais. L'histoire, c'est que le bateau aurait transporté de l'acide sulfurique et qu'à la suite d'une fuite, les vapeurs auraient empoisonné l'équipage. Donc cette histoire-là, Silvio Cerli la raconte à des locomotives et on peut être tenté de se dire très honnêtement qu'il a tout inventé. Parce qu'en fait, même le journal n'y croyait pas trop à l'époque et terminait sa série d'articles en disant que c'était une excellente histoire, mais qu'on pouvait avoir des doutes. Silvio Charlie a toujours assuré que c'était vrai, et d'ailleurs, il a écrit un nouveau rapport en septembre 1959 à propos de cette histoire dans l'Export Trade de Trieste, qui a à nouveau fait parler de l'affaire. Et c'est trois mois plus tard, on est en 1959, hein, trois mois plus tard, C.H. Mark Jr. envoie sa lettre à la CIA. Donc je pense que C.H. Mark Jr. a dû lire l'information soit dans l'Export Trade de Trieste, soit dans une des reprises des articles qu'il y avait eu à l'époque. En fait, la toute première trace, si tu veux, elle remonte même avant ça. Et c'est ça que je trouve assez ouf, parce que là, on part du principe que l'histoire se serait passée à la fin des années 40. En fait, pas du tout. Elle aurait pu s'être passée bien avant. C'est ça qui est dingue. The Scottish Library a découvert que dès 1940, quelques journaux britanniques, notamment le Daily Mirror et le Yorkshire Evening Post, avaient déjà écrit des articles sur un bateau mystérieux. Mais cette fois-ci, il avait été localisé près des îles Salomon. Mais l'histoire, elle venait toujours de Silvio Charlie. En fait, il aurait créé son histoire en 1940. L'histoire n'aurait pas trop pris parce que la guerre s'est déclarée, donc on avait envie... On était sur de l'information, sur de la hard news, donc on parlait d'autre chose. On n'était pas à cœur à parler de rapporter ces légendes. Donc en fait, ça n'a pas fait le buzz qu'il espérait en 1940. Et il aurait relancé en 1948 dans des locomotives. Et cette fois-ci, ça aurait marché. Si vous voulez croire aujourd'hui encore à l'existence du gros Médan, je vais vous laisser plonger dans les théories farfelues qui expliquent ce qui aurait pu arriver au navire. Parce que pour ma part, je pense que le Ouran Médan n'a jamais existé, que c'est une fiction de Silvio Charlie. Il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur le sujet, parce que c'est vraiment une histoire dont on entend parler depuis très longtemps, enfin du coup depuis les années 40 en fait, hein, avec des moments où on l'oublie et des moments où elle revient, mais enfin, c'est vraiment une histoire qui est présente depuis les années 40. Quoi. Et parmi les auteurs, il y en a qui ont décidé d'aller vérifier s'il y avait une trace du bateau dans le Lloyd's Shipping Register, qui était en fait le registre qui répertoriait les navires marchands. Aucun enregistrement d'un bateau nommé Ouran Médan n'a été trouvé. En tout cas, pas aux Pays-Bas ni en Indonésie. Roy Bainton, qui est l'auteur d'un article qui s'appelle « Le cargo de la mort », j'adore le nom de cet article, un article écrit pour le 14 Times, un journal dont tu as déjà parlé dans l'émission.
Ah oui, bah oui.
On a conclu, en fait, que la date de la rencontre, la localisation, le nom de bateau, les circonstances de l'accident ont pu être exagérées, rapporté de manière inexacte, voire que toute l'histoire pourrait être une fiction. C'est sa conclusion en enquêtant là-dessus. Donc le 14 Times, je le reprécise, hein, c'est un magazine, une revue magazine, qui va s'intéresser à des sujets paranormaux, mais qui va essayer de les traiter avec un œil un petit peu sceptique, la plupart du temps. Et là, en l'occurrence, Roy Bainton s'est penché sur cette affaire, et on a conclu ça, que c'est à minima des faits exagérés, peut-être des faits inexacts, voire une totale fiction. Et cette histoire-là, et même l'histoire du Ouran Médan sur Internet, est soit considérée comme vraie, soit carrément qualifiée de légende urbaine, parce qu'elle est carrément impossible à prouver. Donc si j'avais dû traiter cette histoire dans un épisode du Bureau des Mystères Classiques, j'aurais dit que le degré de mystère était extrêmement faible, même si l'histoire est glaçante, et que l'affaire, à mes yeux, est totalement classée, puisque c'est une... Pour moi, c'est juste une très bonne nouvelle horrifique d'un auteur qui avait beaucoup d'imagination, un auteur italien, Silvio Charlie, qui a écrit une très bonne histoire, qui l'a rapportée dans la presse, et qui a eu l'écho qu'on connaît, mais qui est juste une très bonne nouvelle horrifique.
D'accord, et bien écoute, tu vois, je ne le savais pas. Je voyais passer la légende, et je savais pas, je connaissais ni son origine, ni à quel point elle était à ce point inventée. Et donc du coup, merci, parce que j'en ai appris pour le coup, là.
Bah, quand une bonne histoire a une seule source originelle, généralement, ouais, j'ai tendance à pas avoir méga confiance. Surtout quand quelqu'un tente de la lancer en 40, qui voit que ça marche pas, et qui la relance en 48, il y a, voilà, quand même des indices.
Il y a des indices, en effet. Eh ben écoute, je te propose de passer au creepypasta.
Allez, c'est parti.
Et pour les histoires qui font peur, je te propose de rester dans une thématique un peu similaire. Alors, je n'ai pas pris une creepypasta qui concerne un bateau, mais qui concerne l'eau. Je me suis dit que ça resterait suffisamment dans le thème pour passer. Donc c'est une histoire qui s'appelle, que comme d'habitude, j'ai traduite, mais que je n'ai pas inventée, et qui s'appelle « Ma peur de l'eau ». J'ai toujours eu horriblement peur de m'immerger complètement dans l'eau. Non pas que je ne sache pas nager. Mon père m'a appris. Il m'a raconté que je me suis presque noyé quand j'étais petit. J'en avais peur parce que, aussi loin que je me souvienne, chaque fois que je suis sous l'eau et que je lève la tête vers la surface, je vois une femme me tendant la main. Elle arbore toujours un sourire chaleureux avec ses cheveux dorés et ses grands yeux. Je la vois même si je suis seulement immergé dans ma baignoire. Elle revient toujours. Ça en est devenu normal, mais je ne suis jamais vraiment habitué. C'est à la fois frustrant et apaisant. Quand elle me regarde hors de l'eau, je me sens toujours bien. Mais du coup, j'ai toujours évité de me mettre la tête sous l'eau. J'étais jeune et ça me faisait vraiment flipper. J'en ai jamais parlé à mon père étant enfant, mais je lui ai posé des questions sur maman. Il ne voulait jamais parler d'elle. De temps en temps, il s'énervait si je posais trop de questions. Ce n'est que récemment que je lui ai révélé ce que je voyais dans l'eau. Il conduisait et a failli faire une sortie de route ce jour-là. Clairement, il savait quelque chose. Je lui ai reposé des questions à propos de maman. Il ne me répondait toujours pas, mais m'a avoué qu'elle était morte quand j'étais très jeune et qu'elle m'aimait beaucoup. Il m'a aussi dit qu'elle avait les mêmes yeux et les mêmes cheveux que moi. À partir de ces quelques informations, j'ai commencé mes recherches. J'ai cherché son nom de jeune fille sur mon certificat de naissance et tenté de trouver des occurrences. Je cherchais n'importe quoi en rapport avec un jeune garçon qui serait passé près de la noyade. N'importe quelle coupure de presse qui la mentionnerait. Je regardais surtout les photos. Aujourd'hui, après plusieurs jours passés à la bibliothèque, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. La coupure disait « Winchester, 2 points ». Mary Whitey, 28 ans, est morte noyée hier soir après avoir escaladé une clôture barbelée. Des funérailles seront organisées par sa famille le 25. Mary avait été internée 6 mois plus tôt après que sa responsabilité ait été refusée par l'expertise psychiatrique dans une affaire de tentative de meurtre. Son mari, Daniel Whitey, était intervenu rapidement et avait sauvé leur enfant en bas âge lorsqu'elle a été trouvée en train de le noyer dans une baignoire. Fin.
Joli twist. Écoute, je vais prendre une histoire. Donc, c'est une histoire qui est racontée à la première personne, qui s'appelle le bateau de croisière. Parce que j'ai décidé de rester sur la thématique du bateau. On est très aquatique dans cet épisode. Et est-ce qu'une thématique serait pas en train de se dessiner?
Si, peut-être même qu'on l'avait décidé comme ça avant.
Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'on avait prévu de terminer les vacances du Bureau des Mystères sur des bateaux depuis peut-être. Le tout premier numéro? Ah, peut-être. En tout cas, le bateau de croisière, donc. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de partir en croisière. C'est ce que je vous aurais dit si cette croisière avait été aussi merveilleuse que ce que j'espérais. Car à chaque fois que j'y repense, je me dis que j'ai surtout eu de la chance d'en revenir en un seul morceau. Dès mon arrivée au port, j'ai senti que cette croisière sur la mer du Nord allait être compliquée. Je m'attendais à un flamboyant paquebot MSC, un de ces paquebots nouvelle génération qu'on voit dans les émissions de télé, mais il s'agissait en fait d'un bateau à l'ancienne, avec les cabines qui vont avec. Je savais que j'allais partager ma cabine, le site internet l'avait bien mentionné, mais je ne m'attendais pas à y trouver des lits superposés. Je n'ai pas croisé mon colocataire, mais il avait visiblement déjà choisi la couchette du haut. Quelques vêtements et une valise entrouverte étaient dessus quand je suis rentré dans la cabine. La cabine était petite, mais la couchette était plutôt confortable. La seule chose dont j'aurais pu me plaindre, c'était de cette désagréable odeur d'humidité dans l'air. Vu l'état général du bateau, il fallait s'y attendre. Nous avons quitté le port, la nuit est tombée, j'étais très fatigué, et je suis allé me coucher tôt. Au milieu de la nuit, j'ai été soudainement réveillé par un grand bruit. J'ai alors entendu un petit grognement sur la couchette du haut. Je me suis dit que ça devait être mon colocataire. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir, et le son de ses pas alors qu'il quittait la cabine. La porte, ouverte, claquait avec les remous des vagues. Je l'ai fermée, et je me suis rendormi. Le lendemain matin, la mer était très agitée. L'odeur dans la cabine était toujours présente, et il faisait très froid. J'ai vite compris pourquoi. Le hublot avait été laissé ouvert. Je l'ai fermé, je suis sorti pour prendre le petit déjeuner, et sur le chemin, j'ai croisé un employé. Après cette mauvaise nuit, je me suis plaint du froid et de l'humidité. Il m'a demandé mon numéro de cabine. Je lui ai répondu que c'était la 105. À cet instant, son visage est devenu tout pâle. J'ai eu l'impression qu'il était parcouru d'un frisson et qu'il me fixait bizarrement. Je lui ai demandé quel était le problème, et il m'a répondu en balbutiant. Rien, c'est juste que tous ceux qui ont dormi dans cette cabine se sont plaints. Il y a quelque chose qui va pas avec cette cabine. Je suis pas censé vous en parler. Enfin, ils veulent pas que je fasse peur aux passagers. J'étais inquiet et j'ai insisté pour qu'ils m'en disent plus. Il a alors regardé derrière lui, il s'est approché de moi, et il m'a expliqué la situation à voix basse. « Écoutez, je veux pas perdre mon travail, mais vous devez savoir, sur les 3 derniers voyages, toutes les personnes qui ont dormi dans la cabine 105 ont sauté par-dessus bord. » Et il est parti. Je savais pas s'il se moquait de moi ou non. J'ai continué ma route, Au restaurant du bateau, le capitaine est venu me voir. Il voulait savoir si j'avais vu mon colocataire. Je lui ai dit non, je lui ai demandé pourquoi il me posait la question, et lui aussi avait l'air inquiet. Et il m'a murmuré qu'il avait peur qu'il soit tombé à la mer. Ma réponse est sortie toute seule. Mais c'est le quatrième alors. Le capitaine est soudainement devenu très nerveux. Il m'a dit de ne pas en parler aux autres passagers, qu'il ne voulait pas avoir une panique à bord. La deuxième nuit, en retournant à ma cabine, j'étais très mal à l'aise. L'idée que la personne qui dormait au-dessus de moi soit probablement morte me donnait des frissons. J'y repensais, quand j'étais allongé sur ma couchette, avant d'enfin réussir à m'endormir. Mais cette nuit encore, un grand bruit m'a encore une fois tiré de mon sommeil. Il faisait à nouveau un froid glacial dans la cabine. Le hublot était ouvert et la porte tapait contre le mur. Je me suis levé pour les fermer, mais j'ai alors senti quelque chose, comme une présence sur la couchette du haut. Puis j'ai entendu, comme la nuit précédente, un grognement. Il faisait nuit noire, impossible de voir quoi que ce soit. J'ai donc passé ma main à travers le rideau de la couchette du haut et senti l'angoisse monter en moi. Il y avait quelque chose là-haut, quelque chose de froid comme la mort, quelque chose de mouillé, quelque chose qui sentait horriblement fort, comme des algues en décomposition. Je suis sorti en courant de la cabine. Alors que je reprenais mes esprits sur le pont, le capitaine est venu me voir. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je lui ai dit que je pensais que ma cabine était hantée. Évidemment, il n'y a pas cru. Il m'a même proposé de me prouver qu'il n'y avait rien d'étrange en y allant avec moi. Il était certain qu'il allait trouver une explication rationnelle. Nous avons fermé la porte à clé, refermé le hublot, et nous avons attendu, patiemment. Jusqu'à ce que les rideaux de la couchette du dessus s'agitent et s'ouvrent devant nos yeux. Le capitaine s'arrêta net, terrifié par ce qu'il venait de voir. Cette chose était atroce, d'une horreur qu'on peut difficilement exprimer avec des mots. Il y avait là le corps, pâle, gonflé par des jours et des jours dans la mer, d'un homme noyé. Ses yeux de mort, laiteux et voilés, me fixaient dans l'ombre. Sur son visage boursouflé, j'ai vu se dessiner une affreuse grimace. La chose m'a alors attrapé par le cou et a rapproché son visage dévasté du mien. Envahi par son odeur de putréfaction marine, terrorisé par son regard vide, j'ai senti que la vie quittait mon corps, comme si cette créature était en train de l'aspirer. J'ai hurlé. Derrière moi, le capitaine essayait aussi de crier, immobile, mais aucun son n'arrivait à sortir de sa bouche. J'implorais la chose de me lâcher, de ne pas m'emporter avec elle au fond de la mer. Des larmes salées coulaient sur mes joues. C'était fini. Mais le monstre m'a soudainement projeté en arrière. Désormais dressé sur ses jambes décharnées, le corps en putréfaction nous observa un moment, tous les deux, avec ses yeux blancs, et se jeta à travers le hublot ouvert. Je n'ai jamais su pourquoi cette chose nous avait épargnés. Après cette nuit, la décision a finalement été prise de sceller la cabine 105. Plus personne n'y a dormi depuis. Mais je reste persuadé que la chose s'y trouve encore, la nuit, à attendre d'autres passagers à jeter à la mer. C'est une histoire d'horreur qui tourne beaucoup sur le net et qui est en fait une version simplifiée d'une nouvelle.
D'accord.
Qui date de 1886.
Ok.
Cette nouvelle s'appelle The Upper Berth. C'est une nouvelle de l'auteur américain Francis Marion Crawford. Et elle est visiblement considérée comme un classique de la littérature horrifique. Moi, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. En fait, ce que j'ai utilisé pour vous raconter cette histoire, c'est le résumé du site Scary for Kids, où je retrouve souvent des légendes urbaines, des creepypastas, et qui centralisent vraiment beaucoup d'histoires horrifiques, d'histoires de fantômes soi-disant vraies, mais aussi des pures fictions. C'est une excellente base de données. En fait, c'est un peu comme un Wikipédia des histoires qui font peur, si tu veux. Et je me suis rendu compte que y avait une nouvelle qui s'appelait genre le paquebot, qui était une version très simplifiée de The Upper Berth, cette nouvelle de 1886. Du coup, j'ai pris un peu des deux, parce que je suis allé voir la nouvelle originelle. J'ai pris un peu de la nouvelle originelle, un petit peu de la version creepypasta, qui est une version simplifiée de la nouvelle. Je vous ai mis ça en français, et puis je me suis dit que j'allais l'actualiser un petit peu pour faire comme si ça pouvait se passer aujourd'hui, parce que généralement, ça se passe vraiment en mode époque victorienne constamment, quoi.
D'accord.
Donc voilà, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire. Elle t'a plu ?
Ah, elle est très très cool, ouais. Ouais, ça fait en effet penser à des histoires folkloriques qui se passent dans les bateaux. Et de maintenant, ouais. Mais ouais, non, elle est très très cool.
Puis sur le côté horreur innommable et l'odeur de putréfaction d'algues décomposition de la mer, je trouve qu'il y a quelque chose de très Lovecraftien dans l'esprit aussi.
Ouais, carrément, ouais.
Et du coup, je l'ai lu en même temps que je commençais une série que tu as commencé aussi, je crois.
Oui, Lovecraft Country.
Ouais, j'aime beaucoup. J'ai regardé le premier épisode, là, j'ai hâte de regarder le deuxième, ça a l'air vraiment cool.
L'ambiance dans le deuxième, tu vois, ça... Alors, le pilote est vraiment ouf.
Le pilote était génial. Hein.
Ouais, le pilote, c'est dingo. Hein. C'est vraiment dingo. Après, tu vas voir, ça part peut-être pas forcément dans la direction... attendu, mais ouais, non, très 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 cool. J'ai hâte de voir le troisième.
Bah du coup, bah c'est une bonne transition pour passer au reco. Notre première recommandation n'est pas totalement une recommandation, on va être très honnête. C'est plus, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'histoire du Ourmédan, puisque c'est le jeu vidéo Man of Medan, sorti en 2019, qui s'inspire librement de l'histoire du Ourmédan. Enfin, je dis librement, mais en vrai, ça colle plutôt pas mal à ce que j'ai dit dans la légende. Hein. Le scénario du jeu, c'est à peu près ça. Hein. On est une bande de jeunes cons qui vont se retrouver sur le Ourmédan et qui vont devoir survivre et réussir à soit s'enfuir par leurs propres moyens, soit survivre jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Ce qui ne va pas être aisé, évidemment. C'est un jeu qui a été fait par Supermassive Games, donc c'est le studio qui avait fait Until Dawn dont on avait déjà parlé
ouais,
et qu'on
avait plutôt kiffé, ouais. Ouais.
Qui est drôle, en fait, qui fait peur par moment, qui a des jumpscares qui sont très efficaces par moment, qui réussit à créer une ambiance et qui aussi fait rire parce qu'on est vraiment un peu sur de la série B. Pour moi, Until Dawn, c'est un peu de l'adaptation au jeu vidéo d'un nanar, par exemple. On va se marrer, il y a cette rythmique typique des slashers des années 90-2000. Il y a une ambiance que j'aime
bien. C'est pas tant nanar dans sa réalisation, parce que pour le coup, c'était plutôt un gros jeu, hein, qui était
c'est très bien réalisé,
parfois une démo technique, hein, mais c'est surtout...
Non, c'est dans son scénar,
c'est
ses dialogues,
voilà,
tout ça.
Et c'est surtout les dialogues, exactement. C'est surtout les relations entre les personnages qui étaient assez... je sais pas comment... Pas simpliste, mais disons que je me souviens très bien... Je me souviens l'avoir streamé une partie... Et à un moment donné, dans les dialogues, il y avait un truc qui me saoulait, c'est qu'il n'arrivait pas à construire une phrase sans le mot fuck. Et c'était pas une blague. À un moment donné, ça revenait toutes les phrases. Vraiment toutes les phrases. Et c'était, au bout d'un moment, c'était un peu relou. Mais c'est un jeu qui est rigolo. Et c'est un jeu qu'on l'avait déjà dit, je crois, qui est surtout un excellent jeu de... C'est le seul jeu solo comme ça que je connais qui est aussi un chouette jeu de coop canapé. C'est-à-dire qu'on peut se passer la manette quand on change de personnage, puisque l'histoire nous fait alterner entre différents personnages. On peut se passer la manette et c'est fun de regarder l'autre personne faire des choix, voir son personnage mourir, reprendre la manette et tout. Et tout. C'était vraiment sympa pour ça.
D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire sur Until Dawn et c'est ce qu'on a fait avec Charles. Ouais. Hein, j'avais acheté le jeu sur PS4 à l'époque et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait lancé le jeu à 20h, ce qui est l'heure à laquelle commence l'histoire dans le jeu, si vous voulez. Et il faut survivre jusqu'à l'aube. Et on l'avait fait comme ça. On commence à 20h et on survit tous les deux jusqu'à l'aube en se passant la manette. Et je pense que c'est une des meilleures manières de jouer à Until Dawn. Et donc voilà, si vous êtes avec des potes et que vous voulez vous passer la manette à chaque fois qu'il y a un changement de personnage, ça peut être une très bonne soirée / nuit. À passer devant ce jeu, ce qui dure à peu près 6h30, 7h, je crois.
Ouais, il n'est pas très très long.
Donc ça peut se faire d'une traite en buvant quelques Red Bull ou quelques cafés, mais voilà, ça peut se faire, quoi.
Man of Medan,
ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de Man of Medan.
On l'a fait ensemble aussi. Hein.
On l'a fait ensemble aussi. Donc Man of Medan, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui fait partie de The Dark Pictures Anthology, qui est une anthologie de jeux d'horreur qui utilise la même technologie censé être photoréaliste, mais qui fait très Uncanny Valley.
Ouais, là.
Et comme pour Until Dawn, on a quelques acteurs vaguement connus. Là, on a un acteur connu, en l'occurrence, qui est Sean Ashmore. Sean Ashmore, c'est le monsieur qui joue Iceberg, le mutant dans X-Men, et aussi un des jeunes cons qui sont sur le télésiège dans un très bon film que je vous conseille, qui est Frozen, d'Adam Green. Donc c'est des jeunes qui décident de se faire une dernière sortie à ski et qui se retrouvent bloqués sur le télésiège, sauf que c'est ballot, c'est la fin de la saison, donc il y a personne pour les faire redescendre. Et comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir dans ce froid glacial sur un télésiège?
C'est un acteur qui avait déjà mis les pieds dans le jeu vidéo, puisque je crois que c'est le héros d'un jeu qui s'appelle Quantum Break, un jeu de Remedy.
D'accord, c'était lui et pas son frère, parce que moi je confonds toujours avec son frère.
Je crois que c'était lui, ouais.
Parce qu'il a, en fait, son frère a joué dans Veronica Mars, et
non,
il se ressemble vraiment
c'était
beaucoup.
C'était lui.
Je me demande s'ils sont pas jumeaux d'ailleurs. Donc oui, un habitué du jeu vidéo, visiblement. Et là, écoute, qui n'est pas le personnage le plus intéressant du jeu, en plus, si tant est que ce jeu soit vraiment intéressant, puisque là où je disais que Until Dawn était plutôt un jeu type un peu nanar, là, on est plus dans le domaine du navet, c'est-à-dire que c'est moins fun. Si vous aviez à choisir entre les deux, aller vraiment vers Until Dawn. C'est plus un conseil de jouer à Until Dawn plutôt qu'à Man of Medan.
Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que c'est un... Alors déjà, c'est un jeu d'aventure en 3D. C'est un jeu, en fait, où on fait un ensemble de choix, parce qu'on fait des choix de dialogue. Et en fonction de ces choix de dialogue, on va construire des relations entre les personnages qui seront amicales ou plutôt des relations de défiance. Et qu'en fait, ces relations vont jouer sur la suite du jeu, sur est-ce que certains vont survivre ou ne pas survivre. Et en fait, des fois, c'est certains de nos choix, genre est-ce qu'il vaut mieux que je saute là, est-ce qu'il vaut mieux que j'esquive là, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça, qui vont faire qu'on va survivre ou pas. Et en fait, c'est un jeu, pour vous donner une idée, extrêmement scripté, pourrait dire peut-être à la manière d'un jeu de David Cage, sauf que là, l'avantage quand même qu'ont les jeux de Supermassive Games, c'est qu'ils ont le bon goût de pas se prendre trop au sérieux et d'avoir des univers assez délirants. Après, il faut être honnête, c'est un jeu qui, autant Until Dawn, je l'avais trouvé plutôt chouette, surtout à l'époque où il était sorti, je crois qu'il était sorti en 2015, hein, c'était assez, c'était plutôt cool. Là, c'est un jeu qui est techniquement à la ramasse, mais vraiment à la ramasse, quoi. C'est l'Uncanny Valley en permanence, les sourires sont super gênants, les dents sont gênantes.
Les dents font peur. On n'est pas à l'aise avec
on
les dents.
On n'est pas à l'aise du tout.
Il y a des gens qui ont beaucoup trop de dents dans ce jeu.
Et en fait, c'est cette bande de jeunes qu'on va devoir faire survivre en baladant dans l'Ouramédan, on s'y attache jamais parce que on a passé plus de temps sur le petit bateau à côté de l'Ouramédan que dans l'Ouramédan, je crois.
Oui, parce que le jeu commence sur un petit bateau de plaisance classique.
Et vraiment, il y a des gros soucis de narration, des gros soucis d'écriture. On passe des fois d'une séquence à l'autre. Il y avait un rapport assez ténu entre ce qui se passait. Il y avait même, ça je me souviens, il y avait même un manque de synchronisation, parce qu'on y jouait à distance. Il y avait un manque de synchronisation entre l'image et le son à certains moments. C'est-à-dire que c'était vraiment catastrophique. Si vous y jouez, ne faites pas le truc à distance. Après, pour terminer là-dessus, parce qu'on va pas passer trop de temps non plus sur Man of Medan, c'est un jeu qui vient d'arriver dans le Game Pass. Donc moi je sais que je vais peut-être lui redonner sa chance pour essayer d'avoir une autre fin, pour essayer de
tu penses préparer au prochain?
Ouais, alors le prochain, je sais que c'est pas des jeux que j'achète, hein. Après avoir joué à Man of Medan, le prochain, je vais attendre qu'il arrive dans le Game Pass, parce que j'ai vraiment pas envie de mettre, je sais pas, c'était combien, 30 ou 40 euros?
Non, c'était 20 euros.
Mais non, c'était pas 20, c'est sûr que c'était pas 19,99€, c'était 29,99€ minimum.
Ah, tu veux dire que je me suis peut-être, oui, non, tu as pas.
Ah oui, c'est sûr et certain.
Peut-être que j'ai été un gros pigeon et que je l'ai acheté à 30 euros.
À 20 euros, je pense que j'aurais hésité. Non, il est aux alentours de 30 euros et, vraiment, c'est, enfin, pour moi, ça vaut pas forcément trop le coup. Surtout que, on est sur un jeu qui est même techniquement en dessous de leur précédent jeu, quoi. J'ai l'impression que s'il a été fait à la va-vite, mais bon, j'ai pas forcément d'infos là-dessus. Non, par contre, les autres jeux qu'on vous conseille cette fois.
Oui.
Les deux autres jeux. Le premier, qui s'appelle Return of the Obra Dinn, donc qui concerne, hein, comme vous l'avez deviné, qui vont concerner les bateaux.
Excellent jeu.
Return of the Obra Dinn. De Lucas Pope, donc Lucas Pope qui était connu pour un précédent jeu qui s'appelle Papers, Please, et qui nous mettait dans la peau d'un monsieur qui était au contrôle des frontières et qui, dans une ambiance, on va dire, aux alentours de la fin de l'URSS, décidait si oui ou non une personne avait le droit d'entrer sur le territoire. Et il y avait évidemment des injonctions à faire du chiffre, hein, puisque notre salaire, on avait des malus de salaire et on n'arrivait pas à faire trop vivre notre famille si jamais on faisait mal notre travail, ou si jamais on laissait trop passer de gens. Et c'est un jour où il fallait en fait regarder dans les documents constamment, on avait des documents sous les yeux, on pouvait tourner les pages et il fallait constamment regarder si les documents étaient valides, si les informations que nous donnait la personne étaient bien celles qu'on voyait dans les documents. Et en fait, il fallait faire son... c'était un jeu vraiment, un vrai jeu d'enquête, et Return of the Obra Dinn, qui est sorti, je crois, en 2017 ou 2018. 2018. C'est un petit peu... C'est la même chose, c'est un vrai jeu d'enquête, sauf que cette fois, on incarne un agent d'assurance qui doit faire la liste des dégâts d'un bateau qui s'appelle l'Obra Dinn. Bateau qui a disparu en 1800. Et en fait, on a une montre à gousset, un carnet de notes, et on va se balader sur le bateau qui va être le seul lieu de l'action. Et dans ce bateau, on va avoir accès à des flashbacks dans lesquels on va pouvoir se balader, qui sont des images fixes, et dans lesquelles on va devoir observer, en fait, toute une quantité d'indices qui vont nous permettre d'identifier qui est qui, et surtout quel poste avait cette personne, quel était son nom, et de quoi elle est morte, et de dresser en fait la liste des personnes qui sont décédées dans les différents problèmes qu'a pu rencontrer Lobradin au cours de son voyage, et faire l'intégralité de la liste, remplir les différentes cases qu'on nous demande de remplir, donc à savoir qui est cette personne, quel est son poste et comment elle est morte. Le truc, et c'est là que les jeux de Lucas Pope sont brillants, c'est que ce sont des jeux qui ne nous prennent pas du tout, mais pas du tout par la main, c'est-à-dire que quand on pense à des jeux d'enquête en jeux vidéo, on a des jeux, enfin on a des petites enquêtes, je sais pas, The Witcher 3 ou dans les Batman Arkham, on a des enquêtes, mais on suit un petit indice visuel qui nous mène grosso modo à la solution en permanence. Là, c'est vraiment un pur jeu d'enquête où on va devoir déduire des choses à partir de ce qu'on voit. On a différents documents à disposition pour nous expliquer quels sont les postes du bateau et comment on peut identifier grâce à un vêtement ou grâce à un endroit, comment on peut identifier telle ou telle personne, et on va devoir le faire nous-mêmes. On n'aura pas plus d'indices que ce qui est indiqué dans les carnets, et ça c'est un truc qui est très très rare et que à mon avis seul le jeu indé peut se permettre, parce que on pourrait pas mettre énormément d'argent dans un jeu vidéo où on peut pas s'assurer que finalement les joueurs et les joueuses arrivent à la fin.
Je suis pas arrivé personnellement, hein. Parce que c'est un jeu qui pour moi est trop dur et trop difficile à finir en quelques sessions. Et en fait, j'ai pas le temps, moi, dans ma vie perso, de me faire des sessions de 6 heures, par exemple, sur ce jeu. Ce qui, à mon avis, aide beaucoup, parce qu'en fait, quand tu relances le jeu, tu as toujours besoin d'un temps d'adaptation pour te remettre dedans, ouais. Te remettre à quel niveau de l'enquête tu en étais, te remémorer des personnages, te remémorer les interactions. C'est un jeu vraiment auquel tu peux jouer avec un carnet à côté pour complètement prendre des notes.
C'est même conseillé, en fait. C'est même complètement conseillé.
Oui, c'est conseillé. Et le sentiment, ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je dis, mais le sentiment que tu as quand tu arrives à retrouver quelle personne est la personne que tu vois à l'écran, comment elle est morte et tout ça... Et c'est un peu la même sensation que tu as quand tu joues à des mots croisés très difficiles.
Ouais, si, je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais.
Tu réussis à trouver un mot et ça te permet de débloquer, tu sais, ça te donne un indice pour l'autre mot. Et en fait, c'est ça, j'ai eu l'impression de faire des mots croisés, mais dans un jeu vidéo qui a une esthétique qui est sublime, très particulière.
C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est du 1 bit. Donc, c'est soit du noir, soit du blanc, sauf que c'est pas tout à fait du noir et blanc, c'est une esthétique un peu Macintosh des années 80. Visuellement, il est super.
Il
est extrêmement simple du coup, parce qu'il n'y a pas 36 couleurs, mais par contre ça permet, je trouve, de rendre l'action souvent assez lisible et d'identifier du coup certaines choses quand on s'en rapproche. Mais oui, c'est complètement, t'as dit un truc très juste, je pense que c'est un jeu pour faciliter la progression qui vaut mieux faire d'une traite. À partir du
et
moment
faire d'une traite,
où...
c'est difficile. Ouais. Ouais, ouais. Parce que je pense que si tu veux le faire d'une traite, tu passes quoi? Tu passes 12 heures.
Non, c'est 6-7 heures. 6-7 heures d'affilée. 6-7
heures,
après...
tu penses?
Ouais, 6-7 heures. Ouais. Oui, parce que j'ai pas trouvé tous les membres de l'équipage, mais j'étais arrivé à un gros pourcentage et j'en parce étais à 4 heures de jeu.
Parce qu'il y en a quoi? Il y a 60 heures.
Il y en a
60, je crois.
Ouais. Oui, mais après, c'est par contre, à la fin, ça va plus vite. À la fin, ça va plus vite parce que du coup, t'as éliminé tout un tas de possibilités et t'es déjà passé plusieurs fois par les flashbacks parce que oui, il y a un truc, c'est que le jeu nous autorise, en fait, on peut passer. Il y a des fois, on a une scène, on a tout un tas de gens, je sais pas, il y a un moment donné, il y a une espèce de kraken qui attaque le bateau dans un des flashbacks, et on va avoir zéro indice. C'est-à-dire qu'on va regarder notre carnet, on va regarder les trucs à remplir, et on va se dire, en fait, là, j'ai vraiment personne. On va quand même pouvoir continuer à avancer dans le temps, à voir les différentes séquences que nous propose le jeu, et à la fin de ces séquences, on peut revenir dans n'importe laquelle. Donc au final, c'est un jeu, à partir du moment où on a débloqué toutes les séquences, où on peut retourner dans tout ce que le jeu nous propose et remplir petit à petit, regarder des détails qu'on n'avait pas vus forcément avant. Et en ça, c'est un jeu que je trouve vraiment vraiment très très chouette. Il a une super ambiance et on n'a pas parlé des musiques. Oh, mais les musiques, c'est
un peu répétitif au bout d'un moment, mais elles sont
surtout les petites virgules sonores qui font qu'on rentre dans les flashbacks et qu'on en sort. C'est un petit peu répétitif, c'est vrai. Mais
c'est un truc qu'on n'a pas précisé. Et tu fais bien de dire qu'à un moment il y a un kraken, tout ça. C'est vrai que quand on vous dit c'est un inspecteur d'assurance qui doit essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé aux gens sur le bateau, on peut se dire comme ça que ça peut être un peu austère. En fait, pas du tout. Il y a vraiment une ambiance dingue, un vrai souffle d'aventure dans tout le jeu, dans tout ce que tu vois à l'écran. Il y a des créatures marines. Il y a tout un lore qui est très intéressant dans ce jeu. C'est très beau. Et puis, c'est un bateau qui est censé être passé par les Açores. Donc, on est dans des régions où, enfin, le bateau passe par des îles, passe par des côtes. On est vraiment sur un truc à l'ancienne, quoi. Et c'est vraiment très, très beau, vu comme ça. En plus, avec le graphisme qui ajoute à tout ça, hein. mais le chara-design des personnages est vraiment super bien rendu. Enfin, je trouve que tout est très malin dans ce jeu-là, mais surtout, c'est cette ambiance, moi, qui m'a pris. Je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance vraiment très réussie.
Jusque dans ces systèmes, parce que c'est vrai que j'étais en train de réfléchir, on pourrait dire finalement, on pourrait craquer le jeu, on pourrait dire, je vais tenter toutes les combinaisons de noms, toutes les possibilités de mort, tous les postes, et puis je vais bien voir, il y en a bien une à un moment donné qui va se valider, sauf que non, là aussi où le jeu est malin, c'est qu'il ne vous validera une possibilité que si vous avez 3 personnes dont vous avez retrouvé toutes les informations. Donc même si vous décidiez d'essayer d'un peu de craquer le jeu, de passer en force en quelque sorte et de rentrer des informations au pif pour voir si ça passe, en fait le jeu ne vous les validerait pas parce qu'il faudrait que vous en ayez 3 consécutives pour que le jeu vous les valide. Donc il est vraiment très très malin et ouais, c'est un
plus
jeu
Sudoku du coup.
Ouais.
c'est plus Sudoku que mot fléché.
C'est un jeu dont je suis assez fan et ça manque de jeux comme ça qui comme ça te lâche.
Cher,
non, il est je crois qu'il est sorti autour de 20-25 €. Il a été bradé quelques fois c'est un jeu qui tourne sur Switch, sur PC. Enfin, il est sorti partout maintenant. Quand j'y pense, il est sorti absolument partout. Switch, PS4, Xbox One, PC. Alors que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais Man of Medan est sorti sur PC peut-être, je suis pas sûr, mais surtout sur PS4 et One et pas sur Switch.
Non, pas sur Switch.
Et dernier
c'est
jeu.
C'est pas la peine.
Dernier jeu auquel on a encore joué tous les deux.
Ouais, sea petite gourmandise.
Petite gourmandise et très très chouette gourmandise qu'on a beaucoup kiffé. Sea of Thieves, jeu développé par Rare, qui est maintenant un studio qui est dans le giron de Microsoft, sorti en 2018.
Saigné à l'été 2018.
Ouais, qu'on avait acheté assez tôt, c'est vrai qu'on l'avait acheté dans les premiers mois de sa sortie, et sur lequel on a passé quelques dizaines d'heures assez savoureuses. Là, pour le coup, c'est un jeu complètement différent, jeu en ligne, avec une map partagée par une trentaine d'autres personnes, si je dis pas de bêtises, et qui nous propose de jouer seul ou à plusieurs, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rigolo à plusieurs, la chasse au trésor et à jouer aux pirates.
Ouais, non, seul...
c'est un peu moyen.
Déjà, tu t'ennuies plus parce que tu peux faire moins de choses quand tu joues seul à Sea of Thieves, et en plus, tu es beaucoup plus facilement une proie. Parce qu'en fait, ce principe de map partagée, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont des équipages qui sont en train de naviguer sur les mers en même temps que vous, et les joueurs ne sont pas sympathiques, globalement.
Ça dépend. Bon, on a croisé de tout. On a croisé des gens sympas, mais c'est vrai qu'il y en a plein à partir du... Surtout que nous, on était à 2 ou à 3 sur le bateau, donc on avait pas forcément les plus gros bateaux. On avait des sloops, je crois qu'ils s'appellent. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont des gros équipages et qui sont sur les plus gros bateaux, on constitue des proies plutôt faciles. Après, c'est un jeu, là où je le kiffe, c'est qu'on est complètement dans un fantasme de piraterie.
Ah oui,
on peut avoir une jambe de bois, un crochet, un chapeau, jouer de la musique de pirate avec nos instruments, boire de la bière et être complètement bourré et vomir par-dessus bord ou passer par-dessus bord aussi.
Ça, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois.
Et tout ça et se retrouve quand même, parce que il y a un cœur de jeu qui est la navigation qui doit se faire à plusieurs, puisque le pilote du bateau, celui qui tient la barre, n'a pas toutes les infos, ne peut pas, par exemple, voir derrière lui ou ne voit souvent pas bien devant lui si les voiles sont baissées. Donc c'est un jeu où il faut partager des infos entre des personnes qui sont devant le bateau, à l'arrière du bateau, dire « écoutez, capitaine, on est poursuivi !» Ce genre de choses-là. Et c'est un jeu, en fait, qui valorise énormément le roleplay, quand j'y pense. C'est-à-dire que quand on est roleplay, quand on est une équipe et qu'on part à la chasse au trésor, qu'on part tirer sur des squelettes ou des vaisseaux fantômes, ou qu'on part creuser des trésors, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi des énigmes qui sont souvent assez sympathiques, assez malines, même si elles ont un peu toujours la même structure, qui nous disent par exemple allez sur telle île, et puis après quand on va sur l'île en question, le message sur le papier se dévoile et il nous dit à l'aube marchez 10 pas dans ce sens, puis au puits, faites telle action, jouez, le puits réagira au son de votre voix, ou quelque chose comme ça. Et là, il faut y aller un peu en mode manuel, compter les pas qu'on fait à partir de tel caillou, et essayer de planter sa pelle, et voir si le si le trésor ressort, quoi. Et ça, pour le coup, les énigmes, je les trouve assez cool. Après, c'est un jeu, oui, qui est aussi sympa et qui est tributaire, en fait, de des personnes aussi qui sont un peu sur la map. C'est-à-dire que si tout le monde commence à agresser tout le monde, c'est sûr que c'est un jeu qui est tout de suite beaucoup moins drôle, quoi.
Ouais, c'est vrai que nous, les meilleures parties qu'on a fait, c'est quand on avait des gens qui s'approchaient avec des bateaux, mais qui, au lieu d'essayer de nous couler, nous proposaient de naviguer sous le même pavillon.
Ouais.
Des alliances. Parce que tu as cette possibilité-là, tu peux faire des alliances avec d'autres bateaux, et en fait, comme c'est le cas chez les pirates, tous les gains des équipages sont partagés entre les bateaux. Donc ça, voilà, on peut arriver sur des maps où les gens sont cool, et en fait, la moitié des bateaux de la map collaborent en bonne entente, ou alors tu tombes sur une map où il y a des gros cons qui sont là, et ils pensent être sur Fortnite, et qui te fument ton bateau en te fonçant dessus.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a malheureusement un petit peu de tout, mais après, ça, c'est le lot de tous les jeux vidéo en ligne, c'est pas forcément spécifique à celui-là. Je trouve même que sur celui-là, on est plutôt cool. Pas trop mal lotis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, des fois, il y en a qui ont aussi un petit peu peur et qui envoient un boulet de canon en mode est-ce que t'es un ennemi ou est-ce que voilà. Mais ouais, c'est malheureusement tributaire de ce type de choses. Après, j'ai lu, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est avéré ou si c'était lors de la rumeur, mais qu'ils allaient instaurer un système de serveur privé. Et ce serait cool qu'ils aient un système de serveur ou de serveur roleplay. Ce serait vraiment très sympa que tout le monde sur une map, soit un pirate bon ou mauvais, mais joue un petit peu son rôle. Donc ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui est très cool, et on en a pas parlé, mais c'est une des plus chouettes, si en fait c'est peut-être la plus chouette mère des jeux vidéo, hein. C'est magnifique, c'est-à-dire au coucher de soleil vous allez avoir des reflets incroyables, ou au lever de soleil aussi, mais en plus il y a toute une physique liée au déplacement du bateau, au vent, les voiles qu'il faut orienter dans le bon sens, il faut regarder un peu le sens du vent pour régler son bateau pour avoir une vitesse optimale. C'est vrai que ça, pour ça, la navigation dans Sea of Thieves, c'est souvent
en fait,
un vrai
plaisir. Et heureusement, parce qu'en fait, tu passes énormément de temps à naviguer dans Sea of Thieves. Ouais. Finalement, le temps passé sur les îles et les avant-postes, c'est peut-être un tiers du jeu. La plupart du temps, t'es vraiment en mer. Et donc tu vois les tempêtes, tu dois naviguer à travers des tempêtes des fois quand tu vois que le temps se lève et que c'est
la boussole s'affole et
d'un coup t'as un équipage, un navire fantôme avec des squelettes dessus qui sort de mer et tu dois aller très vite pour lui échapper ou aller au combat, mais généralement t'es pas assez fort pour aller au combat. Donc non, c'est vraiment un jeu qui est formidable pour ça. Et la mer particulièrement, moi je l'aime beaucoup la nuit, parce que la nuit la mer devient un petit peu noire, puisque forcément bah voilà, c'est la nuit, elle est juste à la lueur du clair de lune, et toi tu l'éclaires avec les petits lampions de ton bateau, et il y a des effets qui sont vraiment très très beaux. Donc
le seul reproche, qui est un reproche que beaucoup ont fait à la sortie du jeu, et je sais pas si ça a été comblé depuis, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y est pas retourné, mais c'est ça manquait d'un squelette scénaristique un peu solide.
Bah, ils avaient commencé à l'installer quand on avait arrêté, tu sais.
Ils avaient commencé à rajouter des missions. Ils avaient rajouté des missions qui étaient plus longues, c'est-à-dire il y avait des missions qui étaient par phase, et il fallait vraiment plusieurs heures pour résoudre des énigmes qui en effet étaient plus cool que celles de base, mais surtout c'est un jeu que Rare n'a pas cessé de mettre à jour.
Ouais. Et ils n'arrêtent toujours pas d'ailleurs, il y a toujours des mises à jour actuellement.
Ouais. Il y en a, je crois que celle de septembre qu'on a parlé tout à l'heure intègre des chiens, des compagnons chiens.
Rien que pour ça, je vais y rejouer.
Rien que pour ça, ouais, ça donne envie d'y retourner. Mais ouais, il me semble que ça manquait peut-être d'une structure comme beaucoup de jeux qui sont des jeux service, ça manquait d'une structure scénaristique un peu centrale ou de quête un peu solide, mais je crois que c'est quelque chose qui a été résolu par l'ajout de certaines quêtes.
On va ressortir notre navire tout noir et repartir à l'aventure.
Ouais. Ah oui, parce que c'est vrai, il faut le préciser, il n'y a pas de... Dans mon souvenir, je crois qu'il n'y en a toujours pas. Il n'y a pas de micro-transaction dans ce jeu.
Non.
Alors que c'est un jeu service. Et les seules choses que vous pouvez acheter quand vous gagnez de l'argent et des points d'XP, même si pas vraiment de l'XP, ce sont des cosmétiques. Donc vous n'êtes pas plus fort que vous ayez joué 2 heures ou 30 heures au jeu, ou 50 heures ou 500 heures. La seule différence, ce sera les cosmétiques, et évidemment vos niveaux de pirates, mais vos niveaux de pirates ne vont pas améliorer les balles, ne vont pas améliorer le sabre, ou ne vont pas vous permettre de respirer plus longtemps sous l'eau. C'est uniquement cosmétique. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant quand on a passé 100 heures sur le jeu, mais plutôt accueillant pour les nouveaux venus qui ne sont pas tout faibles à côté des vieux pirates qui sont bien rodés à l'exercice.
Puis je trouve que les améliorations esthétiques, en plus, apportent un vrai plus, parce que quand tu commences commences à personnaliser ton bateau et tout, c'est vraiment classe. Moi, le jour où j'ai pu acheter mes voiles noires, j'étais très content, par exemple.
C'est vrai qu'on avait un bateau très sombre. Hein.
Ouais.
Dans la nuit, quand on peut éteindre individuellement toutes les lumières du bateau, on nous voyait plus.
Mais c'était l'objectif. Hein. Je voulais un bateau fufu pour échapper aux autres navires des autres joueurs, en fait. parce que je suis une victime.
Ouais. C'est un jeu, en fait, c'est un très très bon générateur de bons moments, ce jeu. Et
ouais,
c'est pour ça que vous voyez des fois arriver sur Twitter 1-2 minutes d'extrait de Sea of Thieves complètement what the fuck où tout le monde rigole. C'est parce que c'est un très 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 bon générateur d'aventures et de moments sympas.
Notamment des moments, tu disais qu'ils avaient commencé à installer des quêtes plus longues. Moi, je me souviens qu'on avait joué ensemble et qu'on avait eu un moment très Indiana Jones où, en fait,
oui,
d'un coup, il y a une falaise qui s'ouvre et à l'intérieur, il y avait une cavité dans laquelle il y avait un trésor. Et tu sais, des moments un peu merveilleux comme ça. Bon, et après, t'as une armée de squelettes qui te tombe sur la gueule et puis et tu
c'est compliqué.
mais du coup, c'est hyper marrant parce que tu fais ah, on a trouvé le truc et après, je te fais ah, mais je suis mort. Bon, bah, ok, très bien. Donc, c'est assez marrant. Comme jeu, voilà, c'est vraiment des très très bons moments entre amis. Tout seul, ça a moins d'intérêt.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait les recos les plus longues de...
Oh là, j'avais pas vu le
timer. On a fait des recos un petit peu plus longues que prévu. Donc Man of Medan qu'on recommande pas trop, et Return of the Obra Dinn et Sea of Thieves qu'on recommande beaucoup plus dans deux jeux, certes de bateaux, mais avec des ambiances très 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 différentes. Mais écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée.
Une très bonne rentrée.
Un bon travail.
Une très bonne rentrée si vous êtes déjà rentré aussi. Et bonnes vacances si vous avez la chance de partir en vacances en septembre, car ça arrive. Et ça fait plaisir. Ce n'est pas mon cas, malheureusement.
C'est pas ton
Donc
cas.
Plutôt bonne rentrée à tous. Et on fait des gros bisous.